franceinter.fr. La science de l'environnement, en partenariat avec reporter.net, le quotidien de l'écologie.
Les plus démunis risquent de subir plus fortement les conséquences du réchauffement climatique. C'est l'objet d'un texte que vient de publier le Conseil économique, social et environnemental autour de cette notion de justice climatique. Bonjour Agnès Michelot.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférences en droit public à l'Université de La Rochelle, présidente de l'Association française pour le droit de l'environnement et co-rapporteur donc de ce texte avec le climatologue Jean Jouzel. Et puis en studio avec nous, Hervé Kempf, notre partenaire avec le magazine reporter.net. Bonjour Hervé.
Bonjour Mathieu.
La notion même de justice climatique, Hervé Kempf, c'est quelque chose d'assez nouveau, non ?
Oui et non. Depuis plus d'une vingtaine d'années, la question de la justice environnementale a été posée, en fait, surtout aux États-Unis, quand des sociologues et des activistes se sont rendus compte que les quartiers pauvres, souvent dans les quartiers noirs, habités par des noirs, subissaient le plus de nuisances environnementales. C'était dans des quartiers industriels, il y avait une forte pollution de l'air, des déchets, du bruit. Donc il y a eu tout un courant d'analyse et de pensée autour de cette question qui, quand les négociations sur le climat ont commencé, au début des années 2000, a été en quelque sorte transplanté, là aussi, par des ONG, par des intellectuels. On a d'abord analysé le fait que les pays étaient inégalement responsables vis-à-vis du changement climatique et inégalement aussi victimes. Et puis, l'analyse des inégalités n'a pas été seulement portée sur les pays, mais on s'est rendu compte qu'entre les individus ou entre les classes sociales, entre les groupes sociaux, il y avait des différences, qu'en gros, les pauvres étaient plus victimes du changement climatique et que les riches en étaient plus responsables. Donc, on est arrivé ainsi à la notion de justice climatique et qui maintenant rentre vraiment dans le débat public, dans une reconnaissance institutionnelle avec, et c'est un signe important, ce rapport, cet avis publié par le CESE.
Agnès Michelot, avant qu'on parle de ce texte, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples d'inégalités à venir qui sont grandissantes en ce moment ?
Oui, les inégalités se placent à plusieurs niveaux. Au niveau des risques climatiques, par exemple, en Outre-mer, l'intensité des cyclones, l'érosion des côtes. Donc il y a des inégalités territoriales, tous les territoires ne sont pas impactés de la même façon. Vous avez, mais surtout, des inégalités pour les plus démunis en cas de répétition, par exemple, des canicules comme celles que l'on a connues en 2003. Imaginez que des sans-abri ne pourront pas aller se mettre dans des logements climatisés. Donc, de même, si vous avez moins de moyens, vous allez construire votre logement dans des zones à risque où la part de terrain sera moins chère. Donc, autant de facteurs qui font que les plus démunis sont en situation de subir les risques climatiques de plein fouet et en même temps, ils ont moins les moyens de s'adapter. Et un autre exemple peut être aussi celui de la vulnérabilité des femmes par rapport aux hommes qui, dans une perspective de modification de l'économie, de modification des emplois, eh bien, sont plus vulnérables économiquement et socialement et donc potentiellement moins en capacité de s'adapter. Mais il nous manque beaucoup d'études encore pour évaluer toutes les inégalités dont nous venons de parler.
Est-ce que la prise en compte de ces inégalités a été inscrite dans le texte de la COP21 l'année dernière à Paris ?
Alors j'ai envie de dire comme mon prédécesseur, oui et non, puisqu'en fait le préambule de l'accord de Paris reconnaît les termes de justice climatique, mais de manière extrêmement marginale, puisqu'il évoque la justice climatique reconnue par certaines cultures et pas par certains États. Alors on imagine qu'en fait il se réfère à certains pays, notamment latino-américains comme la Bolivie, qui, eux, sont porteurs de ce discours sur la justice climatique. Mais en tant que tel, il n'y a pas de reconnaissance par tous les États dans ce préambule de la justice climatique. Donc c'est une situation un peu ambiguë, et c'est vrai qu'il faudrait que la justice climatique devienne un enjeu central dans les négociations climat, comme il faudrait que ça soit un enjeu central et transversal de nos politiques publiques à l'échelle d'un État, et notamment la France.
Hervé Kempf, des préconisations au sujet alors là du texte qui vient d'être publié par le Conseil économique et social et environnemental.
Je ne sais pas si c'est une préconisation, c'est plutôt une interrogation. Vous connaissez certainement le travail qu'avaient fait Thomas Piketty et Lucas Chancel il y a quelques mois, et d'ailleurs on les
avait reçus
ici dans les sciences de l'environnement de la tête au carré, et en gros ils analysaient le rapport entre les inégalités et les émissions de CO2, et notamment ces deux économistes remarquaient que 10% des émetteurs de gaz à effet de serre sont responsables de près de la moitié des émissions, et pronostiquaient ou recommandaient une taxe carbone mondiale sur les individus, sur le CO2, ou une taxe progressive généralisée sur les billets d'avion. On a l'impression que votre avis reste un petit peu en deçà de la problématique posée par Piketty et Chancel.
Agnès Michelot.
Alors, nous avons mis en place, si on peut dire, des principes de justice climatique qui sont plutôt orientés vers les principes de prévention et de précaution, donc les principes phares du droit de l'environnement. Et on n'a pas mis le principe pollueur-payeur, qui est un principe assez complexe et qui vient d'ailleurs à l'origine de l'OCDE, donc qui est dans une démarche économique assez complexe. On est dans une démarche de solidarité et de cohésion nationale, et pas dans une démarche de désignation des plus pollueurs dans une démarche punitive. C'est pas du tout l'organisation et la démarche qui est poursuivie ici. Déjà, c'est de faire un point sur les inégalités et de mettre cette problématique sur la table, et c'est déjà pas évident, et de mettre une vision transversale des politiques publiques pour aller vers des principes d'anticipation des risques, de prévention des risques, et intégrer dans les stratégies d'adaptation et d'atténuation ces principes de justice climatique. Là, pour moi, pour nous, ces approches de taxer un volet fiscalité qui est effectivement important, mais qui n'a pour le coup alors rien vraiment de novateur et qui ne fera pas forcément, je dis bien forcément, progresser une vision solidaire sur une thématique, à mon avis, essentielle.
Merci beaucoup en tout cas Agnès Michelot pour cet éclairage. Coup de projecteur donc aujourd'hui sur cette notion de justice climatique alors que vient d'être publié donc ce texte dont vous êtes co-rapporteur, on le rappelle, avec le climatologue Jean Jouzel. Et puis on pourra retrouver des informations sur le site de Reporter, Hervé. Hein.
Tout à fait.
Reporter.net à lundi prochain.
À lundi.
Merci. Et Axel, nous avons un prix Nobel à annoncer aujourd'hui.
Et oui, le japonais Yoshinori Oshumi qui a reçu le prix Nobel de physiologie et de médecine pour ses travaux sur l'autophagie, un mécanisme de ménage cellulaire très important.
Et voici l'annonce du comité Nobel, c'était ce midi en suédois, s'il vous plaît.
Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet har idag beslutat att Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2016 ska tilldelas Yoshinori Oshumi för hans upptäckter av mekanismer för autofagi.
Voilà, c'était pour le plaisir d'entendre parler suédois aujourd'hui dans La Tête au Carré. Bonjour Franck Pérez.
Bonjour.
Vous êtes avec nous en ligne, vous êtes biologiste cellulaire, directeur de recherche de l'équipe CNRS dynamique de l'organisation intracellulaire à l'Institut Curie. Alors l'autophagie récompensée par un prix Nobel, ce mécanisme cellulaire qui a été expliqué dès les années 90, de quoi il s'agit exactement ?
En fait, c'est un système de ménage, de nettoyage de la cellule qu'on a d'abord pensé être une sorte de hasard, un peu de temps en temps des petits composants cellulaires doivent être recyclés et dégradés. On sait maintenant que ça joue un rôle fondamental dans énormément d'étapes du développement, du vieillissement, de la réaction à certaines infections ou autres maladies.
C'est un espoir. C'est un espoir pour soigner certaines maladies. Vous étiez en train de le dire d'ailleurs.
Alors dans certains cas, oui, c'est très difficile parce que c'est un vrai yin et yang, l'autophagie. C'est un système qui a des effets positifs et négatifs selon les cas. Certaines bactéries, par exemple, arrivent à s'installer dans les cellules en se cachant à l'intérieur de l'autophagie, et d'autres sont plutôt éradiquées par les systèmes d'autophagie. Donc il faut bien comprendre la maladie avant de s'amuser à jouer sur les équilibres. Mais en effet, la régulation de l'autophagie dans certains cancers ou dans certaines infections importantes ou dans des maladies neurodégénératives aussi, on a montré qu'il y avait un rôle de l'autophagie.
Oui. Et on s'en sert donc aujourd'hui pour des thérapies particulières ou pas ?
Il y a des essais qui sont en cours, des petites molécules qui visent à activer. On sait aussi que certaines molécules qui étaient déjà données par ailleurs, comme la rapamycine ou autres, ont des effets sur l'autophagie. Donc oui, c'est une piste. Et c'est aussi un univers intéressant qui s'ouvre parce que ça relie à peu près toutes les échelles du vivant. Les études qu'on fait au chimie, les équipes de chimie au début étaient sur la levure. Et aujourd'hui, on sait que c'est utilisé dans à peu près tous les organismes qu'on étudie. Donc l'autophagie, la façon de réparer, de corriger des erreurs en se mangeant soi-même, hein, c'est ce que veut dire l'autophagie, est quelque chose qui est vraiment important.
Monsieur Ossoumi a déclaré avoir été très surpris par sa désignation. Est-ce que vous, c'est un Nobel qui vous surprend cette année ?
Non, c'est toujours difficile de choisir dans les différents sujets, dans les différents thèmes qu'on voit. C'est quelque chose qui a pris beaucoup d'importance, qui de nouveau irradie dans énormément de champs différents, parce qu'on couvre la neurobiologie, le développement, le fonctionnement normal de la cellule aussi, hein, qui est quelque chose d'important. Ce qui est toujours difficile, c'est de sortir un seul nom, là où c'est évidemment toujours un ensemble d'équipes qui ont contribué à notre compréhension de ces mécanismes, des résultats avant où Ossoumi suggérait qu'il y avait des systèmes d'autophagie, donc c'est pas lui qui a nommé ça, mais c'est vrai qu'il a contribué énormément, donc pourquoi pas. De toute façon, ce jeu des Nobel est toujours un peu compliqué de savoir qui mérite d'être mis comme ça à ce point en évidence.
En tout cas, c'est le seul récipiendaire, donc il va pouvoir empocher $1 million. Voilà, c'est rare, c'est tout pour lui. Ce japonais Yoshinori Ossoumi, donc prix Nobel de médecine pour ce concept d'autophagie. Merci de nous l'avoir un peu mieux expliqué, Franck Pérez. Demain sera annoncé, Axel, le prix Nobel de physique.
Oui, vous me l'apprenez.
Et à demain dans la Nuit de la Science.